Vivez le Tour de France avec les pneus Kléber, fournisseur officiel du Tour de France.
RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
L'intégral Tour de France en direct des Champs-Élysées aujourd'hui à l'occasion de la 21e et dernière étape de ce Tour de France. Il reste encore 103 km à parcourir avant l'arrivée tout à l'heure sur les Champs-Élysées. Beaucoup de monde sur le bord des routes pour fêter les héros du Tour de France qui pour l'instant sont en balade dans la banlieue nord de Paris. Enfin, pas la banlieue puisqu'ils sont dans l'Oise, mais ils vont s'approcher petit à petit de la banlieue. On va retourner sur la moto RMC qui se trouve à l'avant de la course. Aujourd'hui, ça ne va pas très vite, Georges, mais ça va accélérer. Ne t'inquiète pas.
Exactement, devant le peloton qui est toujours groupé après 8 km seulement parcourus par les coureurs. Ça discute hein, devant, il n'y a pas de train de sprinteurs, d'équipe de sprinteurs en tous les cas qui sont mises en place, ni l'équipe Sky qui pour l'instant domine la course. Non, pour l'instant c'est toutes les équipes qui sont un peu représentées. On voit des coureurs de l'équipe Astana, de l'équipe Katyusha, de l'équipe Tinkoff qui sont à l'avant. Ça discute énormément, c'est une balade de l'après-midi midi pour l'instant pour les coureurs, certainement jusqu'à Paris tout à l'heure, parce qu'il était de tradition ces dernières années souvent de voir arriver l'équipe du vainqueur du Tour, donc l'équipe Sky, souvent de Christopher Froome, arriver en première pour le premier passage sur la ligne d'arrivée. Donc pour l'instant c'est tranquille, on va dire, dans le peloton, ça discute énormément.
Très bien, nous allons en profiter pour discuter aussi dans notre studio RMC, puisque nous recevons des invités, Fred, qui sont avec nous pour parler de vélo. Nous sommes en compagnie d'un PDG d'une grande société américaine qui s'appelle Silence, qui est une société spécialisée dans la cybersécurité. Stuart McClure est le PDG. Bonjour Stuart.
Bonjour.
Monsieur. Welcome in our studio.
Bienvenue dans notre studio.
Ouais, si, il va faire la traduction. Il y a Félix Marquardt également qui va assurer la translation, because
la traduction.
Notre translator est un peu moyen quand même.
Oh non,
c'est Frédéric Adonon qui
s'en fout. Il est fatigué.
Félix qui est fondateur d'Ignite Atlantique et qui entoure ici Stuart.
On a fait un dîner hier soir autour de Stuart à Paris. On a été très très heureux du résultat et Stuart, avec sa présence ici autour, est très très enthousiaste. Il vient de rencontrer Greg LeMond, il vient de rencontrer Raymond Poulidor. Il connaissait déjà Greg, il connaissait pas encore Raymond. Donc,
sa renommée n'a pas franchi l'Atlantique, Raymond Poulidor.
Elle a franchi l'Atlantique, mais il n'avait pas eu l'honneur de rencontrer. Encore.
Alors Stuart McClure qui est avec nous, donc PDG de la société Silence, qui est une société je crois spécialisée dans la cybersécurité. Félix, expliquez-nous en gros de quoi il s'agit avec Stuart. C'est une société en tous les cas qui connaît une croissance énorme, phénoménale depuis quelques années. Hein.
Voilà, en fait la cybersécurité est en train d'être complètement révolutionnée. Ça fait 3-4 ans maintenant que Silence a été lancé. Ils ont un taux de croissance sur l'année qui vient de passer de 1100%. Donc ils sont vraiment en train de prendre tout le monde de court et ils ont décidé immédiatement d'investir de manière très forte dans une équipe féminine qui a été représentée aujourd'hui sur la course by le Tour.
La course by le Tour qui est une course féminine qui depuis 3 ans je crois se tient en levée de rideau de la dernière étape des Champs-Élysées. C'est devenu une tradition. ASO est l'organisateur de cet événement et toutes les meilleures cyclistes du monde et toutes les meilleures équipes participent à cette épreuve remportée par une Australienne tout à l'heure. Évidemment, ça s'est terminé au sprint comme chez les hommes. C'est Chloé Hosking qui s'est imposée. Marianne Vos, la grande championne, l'ancienne championne du monde, la Hollandaise, est troisième. Cinquième, une Française, Roxane Fournier. Sixième, Pascal Gelan. Et puis notez la 35e place de Pauline Ferrand-Prévot.
Qui sera avec nous.
Pauline Ferrand-Prévot qui avait là la dernière occasion de courir sous les yeux de son public en France avant de faire le grand voyage vers Rio où elle glanera une médaille d'or en VTT probablement.
Alors Stuart, vous avez donc décidé d'investir dans une équipe cycliste, pour l'instant une équipe féminine, mais aussi chez les garçons. Pourquoi cette passion soudaine pour le vélo?
So you've invested heavily in a women's team. You're about, hopefully, yes. Many people are hoping to invest in a men's team.
Absolutely.
Why is it so important for you to make such an investment? Why is it so important for a small company to increase its visibility thanks to such initiatives?
Absolutely. voilà. Simply because we have technology that is truly, truly groundbreaking. And we want to get that technology out to every single human being on the planet, so all around the globe.
On a une technologie qui est vraiment ce qu'on appelle en anglais disruptive, c'est-à-dire qui change tout, qui révolutionne tout. Et pour nous, c'est hyper important que les gens se rendent compte que le nerf de la guerre en termes de cybersécurité est en train de changer, parce que nous, on veut pouvoir protéger absolument chaque ordinateur sur la planète. Donc pour nous, le vélo, c'est un véhicule absolument clé. Pour faire passer ce message.
Alors, pour faire passer le message, pour permettre à votre société d'être connue dans le monde entier, mais aussi parce que vous avez la passion du cyclisme qui est née, je crois, lorsque Greg LeMond était sur les routes du Tour de France.
So you've also been very much inspired by you, you're a cyclist yourself.
Yes.
You've been personally inspired very much by Greg LeMond at the beginning of your career. Can you tell us a bit more about that?
Yeah, ever since I was 12 years old, then I started to race bicycles on the road and watch the Tour de France and dream of one day coming to the Tour de France. Of course, Greg LeMond was one of my heroes, without a doubt. But even more so, I got to meet the bigger hero.
J'ai commencé à faire du vélo à l'âge de 12 ans. Je me suis vite passionné grâce au sport cycliste par le vélo. Greg LeMond était l'une de mes idoles.
But I got to meet my bigger hero, which was his wife, Cathy LeMond.
Mais je devais rencontrer absolument sa femme, qui est ma grande idole, Cathy LeMond.
Just an amazing woman who actually replied to my letters back when I was 12 years old.
And c'est une femme qui a répondu à mes lettres d'enfant quand j'avais 12 ans. J'écrivais à Greg. Were you writing to Greg?
Yes, yeah. I was writing.
Il écrivait à Greg et c'est Cathy qui faisait la secrétaire de Greg LeMond.
I lived in a tiny island called Guam and I never thought she would write or he would write back at all. And she did. It was amazing. Yeah.
Il habitait dans une île au milieu du Pacifique, Guam, avec je crois il y a 40 000 habitants à peine, et de recevoir des lettres de Cathy LeMond pour lui, c'était assez incroyable.
Alors, comment aujourd'hui un PDG d'une société américaine a envie d'investir dans le vélo? On sait que les États-Unis ont été marqués, comme le monde entier, par l'affaire Armstrong, évidemment, qui a encore des répercussions aujourd'hui. Est-ce qu'aux États-Unis, on considère encore le cyclisme comme un bon vecteur de communication, malgré ce qui s'est passé il y a quelques années, cet ouragan?
So, did you understand the question? Yeah,
very little.
So, in the aftermath of the Lance Armstrong era, it can be an opportunity, but also probably a challenge to use cycling as a vehicle for your business. Although you have this passion, it's perhaps risky. How do you think are Americans ready to look at cycling again as a real vector of positive values?
I think it is always risky when you have some bad press for a sport, for
c'est
sure.
C'est toujours risqué quand la presse a l'habitude de faire ses choux gras avec ce sport.
But I believe in the sport the way I was brought into it, which was pure, 100% pure, and that's what I want to create in the world.
Je crois en ce sport dans la façon dont moi je m'y suis passionné, de façon 100% pure, et c'est comme ça que je veux l'accompagner, ce sport.
So to be a part of that, to be a small, tiny little bit of it, is important. I think not just for me, but for the company and for the world. And that's why we do what we're doing here.
Voilà, et ça a beau s'appeler d'ailleurs Silence, ça n'a aucun rapport
ça
avec
Lance. Ça s'écrit pas Silence. Voilà. Ah oui, et non plus avec Lance.
Ni Silence.
C'est Silence.
Nos auditeurs pensent peut-être qu'on parle de la société Silence qui avait été co-sponsor de l'équipe Silence Lotto, dans laquelle courait notamment Cadel Evans il y a quelques années. Ce n'est pas Silence, c'est bien Silence.
We have nothing to do with Lance Armstrong.
Il faut bien le dire, il faut bien le préciser, effectivement, c'est important. Stuart, quelles sont vos ambitions à terme? C'est d'avoir une équipe professionnelle ici sur le Tour de France. Je vous vois arriver avec des grands yeux, même si vous êtes un grand patron, voir tout ce spectacle, voir cette France en folie pour les coureurs cyclistes. Vous avez envie à terme d'avoir une équipe ici sur les champs et de ramener, pourquoi pas, un maillot jaune aux États-Unis?
You obviously are aiming for a long term. This is a long term project. This is not something that you can do well in in the short term.
Right.
What are your ambitions in the long run? Are you hoping that perhaps to go into a men's team and perhaps even one day bring back a yellow jersey to the U.S.?
Absolutely. Fantastique. Well, for every year going forward, we want to build on top of the successes that we get. And so we're
very... construire petit à petit sur nos succès initiaux.
We're very realistic about each year's progress that we need to make to build up to eventually come to the tour with a men's team and maybe even a women's team that does part of the race, right, along with, so that we can highlight it all.
Donc on veut arriver petit à petit, on est tout à fait conscient que c'est un investissement de long terme, on a de grandes ambitions et donc pour les nourrir, pour pouvoir les satisfaire, on sait très bien que c'est petit à petit qu'il faut procéder et on est prêt à ça, on est là pour le long terme et avec de grandes espérances à terme, non pas juste chez les hommes, chez les femmes, mais voilà, on est tout à fait clair sur le fait que c'est une aventure sur le long terme, c'est une course de fond et pas un sprint.
Jérôme, c'est important aujourd'hui que des investisseurs américains, des grosses sociétés américaines comme ça aient envie de venir dans le vélo. Je sais que tu as envie aussi à terme de monter une équipe. Ça fait plaisir de voir qu'aujourd'hui encore certains sponsors ont envie de venir dans ce sport.
Oui, ce qui est réjouissant, c'est de savoir que beaucoup de monde et le monde entier s'intéresse encore au cyclisme malgré ce qui s'est passé dans les années passées. Ce qui est réjouissant surtout, c'est qu'on parle de projets sur le long terme. On n'est pas là dans un cyclisme qui ressemble à ce qu'il est actuellement, investir, prendre des pions, les mettre sur un vélo et dire on gagne tout à la manière de Tinkoff qui s'en ira sans rien avoir écrit. Et je pense que ce qui est important, c'est d'avoir des sponsors, des personnes qui s'intéressent au sport cyclisme, pas uniquement au Tour de France et à la renommée du Tour de France. Ça, c'est un vrai projet, c'est très important et je crois que l'avenir du cyclisme est là-dedans et dans les gens qui viennent pour l'amour de ce sport et pas uniquement pour faire du business. Et pour cela, on doit réussir à mettre en place des choses sur un projet qui va durer longtemps. Il va falloir aussi aller voir les instances pour leur expliquer ce qu'est l'avenir du cyclisme, comment l'avenir du cyclisme de haut niveau se profile. Si on ne vient pas dans le vélo pour ce genre de projet, le vélo va mourir. Et donc, heureusement que des gens comme la société Silence s'intéressent à ça parce que c'est vraiment l'avenir du vélo et on les en remercie. On espère les voir très vite bousculer ce qui est aujourd'hui en place parce que c'est vraiment des projets qui intéressent le monde.
Bon, je vois Stuart hocher de la tête, il va falloir qu'on parle.
Oh, là, un petit mot. Alors, vous n'allez pas nous piquer notre consultant, on a besoin de lui sur les routes du Tour quand même.
Justement, on a beaucoup parlé ces dernières années et sur les trois dernières semaines d'Oleg Tinkoff, cet oligarque russe qui a monté une équipe. Ça s'est fait petit à petit quand même, il n'est pas arrivé en un claquement de doigts. Ça fait quelques années qu'il est dans le cyclisme international. Stuart, Oleg Tinkoff est le symbole du nouveau riche qui prend le cyclisme et qui prend l'équipe cycliste comme un jouet, comme une danseuse, on dit en français.
So this Russian oligarch Oleg Tinkoff came in, put a shitload of money, and is sort of, you know, he has his little toy, and he's trying to get everything done at a very fast pace.
Yeah.
How do you feel about that approach?
I think there's certainly that approach, and it can be found successful. But we know that things come in progress, and we don't want to be premature. We want to build on top of success upon success and do it right the first time rather than fix any problems along the way.
Donc, nous, on commente pas sur les autres. Voilà, chacun fait sa manière. Nous, on sait qu'on est là vraiment pour construire sur le long terme, que ça se fera pas à pas pour ce qui nous concerne, et que comme on veut pas se gaufrer quand on arrive avec une équipe d'hommes sur le Tour de France, on est en train d'utiliser notre expérience petit à petit maintenant depuis un an avec les femmes, et on va continuer à construire comme ça, et puis le jour où on arrivera, c'est qu'on sera prêt.
Bon, Stuart, on vous veut sur les Champs-Élysées, mais avec un maillot jaune français. Il faudra prendre un maillot jaune français, un coureur français. Lequel vous fait le plus rêver dans les jeunes coureurs français? Je ne sais pas si vous les connaissez tous.
We want you on the Champs-Élysées, absolutely, and we want you with a yellow jersey, but you better have a French runner to wear it.
I hear you loud and clear. I hear you.
100% clair. 5 sur 5.
Yeah.
Très bien. Merci beaucoup, Stuart McClure, d'être venu. Bienvenue dans le vélo. Enfin, vous y êtes déjà, mais bienvenue sur le Tour de France.
Welcome to the Tour.
Et nous espérons que ce ne sont pas que des mots. parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont intéressés par des équipes cyclistes et qui se font de la promotion, qui rêvent tout haut et qui promettent beaucoup de choses. On vous attend dans les prochaines années avec une belle équipe. We hope that it's not not all about words. We hope that you have a concrete project with dignity and something something real.
There's a lot of people who talk the talk.
Yeah.
We really hope that you're going to walk the walk.
Well, promise me to come back and talk to you in a year and I'll be here.
Okay? I hope so.
Rendez-vous dans un an.
Merci beaucoup, Sir Beck. Merci beaucoup d'être venu dans notre studio.
Merci beaucoup, Christophe.
Merci beaucoup.
Merci.
Allez, on va revenir sur la course puisqu'on se rapproche petit à petit de Paris. On va retrouver la moto RMC avec Georges Quirino qui se trouve en compagnie du peloton à 95 km de l'arrivée. Georges.
Oui, avec seulement 17 km de parcouru pour le peloton qui est dans le département du Val d'Oise sous le soleil. Peloton groupé tranquillement, ça discute, peloton désorganisé. Aucune équipe mène véritablement pour l'instant le train de ce peloton qui se dirige tout tranquillement vers Paris.
Merci Georges. Fred, à cette allure-là, ils sont pas prêts d'arriver quand même. Hein,
on est oui, 95 km de l'arrivée, effectivement, toujours sur les routes de l'Oise, du Val d'Oise. On est dans la banlieue parisienne, mais lointaine encore. On s'en rapproche. Les coureurs ne cessent de discuter entre eux. Et voilà plusieurs dizaines de minutes maintenant qu'on aperçoit Vincenzo Nibali aux côtés de son ancien équipier Roman Kreuziger à l'avant du peloton. Les deux coureurs qui jadis portaient le même maillot, le maillot vert de l'équipe italienne. Liquigas, effectivement, aujourd'hui on met en route très tardivement et on arrivera probablement vers 19h30 pour cette belle cérémonie et ces belles festivités parisiennes.
Et il reste encore 40 km avant que le peloton ne passe ici pour la première fois sur la ligne des Champs-Élysées. A tout de suite, l'intégral tour revient dans un instant.
RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Il est 17h24, vous êtes sur RMC, c'est l'intégral Tour de France. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h ce soir. Et oui, parce que c'est la dernière étape de ce Tour de France, 21e en direction des Champs-Élysées, que le départ n'a été donné qu'il y a une petite heure maintenant, depuis Chantilly, donc en direction des Champs-Élysées. Il reste encore 93 km à parcourir, mais pour l'instant, le peloton, comme c'est la tradition, eh bien, roule tranquillement en direction de Paris, toujours avec beaucoup de monde sur le bord des routes. Georges, c'est une foule immense, hein, même pour applaudir les héros de ce Tour de France.
Exactement, un public toujours très nombreux hein, chaque année lorsque l'on se rapproche de la capitale. Et d'ailleurs notre collègue caméraman du service public, comme il n'a pas grand chose à filmer dans le peloton, il filme le public. Il est à notre droite et le public qui s'amuse évidemment avec les caméras. Il y a beaucoup de drapeaux qui sont sortis aujourd'hui, les drapeaux français, beaucoup de drapeaux portugais également hein, certainement beaucoup de drapeaux qui ont été récupérés pendant l'Euro. D'ailleurs on est passé tout à l'heure devant à Chantilly, ce qui avait été le centre d'entraînement de l'Angleterre, le camp de base de l'Angleterre lors de l'Euro 2016. Oui, beaucoup de monde là, ça s'étend sur plusieurs rangées, énormément de pancartes pour remercier Romain Bardet. Vraiment, s'il y a un coureur français qui est encouragé, c'est vraiment lui. Il n'y a que son nom à la bouche des supporters français qui sont là sur le bord de la route pour encourager. Ils ont tout le temps de le voir passer, Romain Bardet, parce que le peloton pour l'instant il est à un rythme très tranquille pour les coureurs qui sont en train de discuter pour l'instant toujours dans ce peloton bien groupé sous le soleil, presque 30 degrés tout de même hein, dans le département du Val d'Oise pour l'arrivée des coureurs sur les Champs-Élysées.
Voilà, il fait très beau, il fait très chaud, les drapeaux français fleurissent là de ci de là sur les bords des routes en direction des Champs-Élysées avec énormément de monde. La popularité du Tour de France ne se dément pas, mais une nouvelle fois eh bien c'est un Britannique qui va donc s'imposer tout à l'heure, Chris Froome, qui va un peu plus entrer dans la légende de ce Tour de France puisqu'il va décrocher son troisième succès hein, Fred, sur les routes du Tour. Il rejoint ainsi des garçons tels que Louison Bobet et Greg LeMond qui était notre invité tout à l'heure. À trois, ça commence à devenir sérieux, hein, trois victoires dans le Tour hein. Il y a assez peu de coureurs dans l'histoire qui peuvent se targuer d'avoir remporté trois fois le Tour de France.
Oui, il rejoint également le Belge Philippe Thys, c'est bien ça, qui s'était imposé bien plus tôt dans le 20e siècle effectivement. Derrière comment avant-guerre avec le micro ouvert, c'est encore mieux. Hein,
oui, je sais.
Cyril prend toujours l'habitude d'ouvrir son micro en quatrième semaine sur le tour et ça nous pose à chaque fois un vrai problème. Effectivement, derrière les fantastiques que sont Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault et Miguel Indurain qui, eux, ont cumulé 5 victoires sur le Tour de France, c'est vrai qu'il entre dans le Gotha à hauteur effectivement de Bobet, de Thys et de Greg LeMond. Est-ce qu'il laissera pour autant une marque dans l'histoire? Disons que a priori et sur ce qu'il nous a montré jusqu'à maintenant, il n'a que 31 ans, sa carrière est loin d'être terminée. Ça manque peut-être un petit peu d'aura, ça manque de charisme, ça manque de punch, de coup de poing sur la table.
Est-ce que Miguel Indurain avait beaucoup de charisme et avait du punch?
Il avait autre chose sans doute. Il avait cette aura.
C'était le charisme naturel.
C'était le roi Miguel. On n'a jamais dit le roi Chris hein, jusqu'à maintenant. Le roi Miguel, pour certains, il avait cette stature, cette carrure qui en faisait une vraie loco. Là, on a quelqu'un qui sort des canons de beauté, hein, des canons physiques de monsieur lambda, monsieur tout un chacun. Pour l'instant, il a couru après la popularité. Il l'a plus ou moins gagné cette année, il faut bien le dire.
C'est sa plus belle victoire.
Absolument, que ce soit grâce à sa victoire d'étape à Bagnères-de-Luchon avec le numéro qu'il a réalisé en attaquant là-haut au col de Perreux-Sourde et en réalisant une descente de grand malade. C'était un très très beau spectacle, merci à lui. Il a remis ça vers Montpellier, jour de grand vent avec Peter Sagan. Ensuite, il y a eu cet épisode du Mont Ventoux où on l'a vu maillot jaune sur le dos courir à pied pendant 300-400 mètres. C'était extraordinaire. Mais
il manque encore un petit quelque chose.
Hein, je crois qu'il subit plus l'image que le porte son équipe en règle générale, une équipe qui est arrivée, qui a un peu révolutionné, qui s'est beaucoup refermée sur elle-même avec un staff énorme où on est 60 sur le Tour de France avec des véhicules noirs où on laisse peu de choses apparaître. Il subit plus l'image de son équipe parce que rappelez-vous le premier coureur de Sky qui a remporté le Tour de France s'appelait Bradley Wiggins, s'appelle Bradley Wiggins. Bradley Wiggins a du charisme,
véritable
et rock'n'roll, ouais. Et pourtant pas très aimé finalement. Quand il a gagné le Tour de France, les gens n'étaient pas super ravis de le voir
oui,
gagner.
Oui, parce que les gens avaient l'impression que Chris Froome était plus fort cette année-là. Justement.
Oui, peut-être, et surtout parce que son équipe, Christophe, a mis des choses en place où on a une équipe qui roule très vite tout le Tour de France, qui écrase la concurrence, qui étouffe la concurrence dans l'école, et ça plaît pas. On aime. Alors c'est le mot qui va faire rebondir notre druide. On aime le panache. Et c'est vrai que cette équipe n'en a pas, mais cette année il a fait preuve de panache. Et moi je suis d'accord avec vous sur ce point-là. C'est sa plus belle victoire. Il a été la chercher coup après coup. Certes, il n'a pas eu une grosse adversité, ça c'est clair.
Cyril, est-ce que Chris Froome est un coureur qui te fait rêver au même point qu'un Laurent Fignon, qu'un Bernard Hinault ou de toutes les idoles que tu as eues lorsque tu étais jeune coureur?
Christophe, on parle pas du même vélo là. Ça, on peut pas comparer ce qui se passe aujourd'hui avec la Sky et avec Froome. Et je veux dire depuis l'avènement de Wiggins à ce qui se passait il y a 15, 20 ou 30 ans, même à l'époque de Indurain, pour revenir sur Indurain, il avait autour de lui des coureurs qui étaient flamboyants. Il y avait des ne serait-ce que des Pantani quoi, bon, qui rehaussaient le jeu. Même si lui, il était un peu introverti, mais derrière il y avait du mouvement, il y avait de la course. Là,
il a montré des choses quand même.
Non.
Lorsqu'il attaque en descente, lorsqu'il attaque dans le vent avec Peter Sagan, franchement, il a montré plus de choses que lors de ses deux premières victoires quand même.
Oui, mais ce que dit Cyril, c'est qu'il y avait également une classe. Un coup de pédale de la part de Miguel Indurain.
C'est l'esthétisme qui vous plaît pas. C'est sa façon d'être posé sur le vélo, son allure trop maigrichonne qui.
Voilà, tu préférerais
voir un Peter Sagan remporter le Tour de France parce qu'il est plus beau. Et je sais que tu as toujours été attiré par les canons de la beauté masculine, Cyril.
Qu'est-ce que tu étais, Cyril?
Qu'il incarnait.
Moi, je pense aussi ce que subit aujourd'hui Chris Froome et l'équipe Sky, c'est l'après. Lance Armstrong.
C'est l'héritage, bien sûr.
C'est ça. On a du mal aujourd'hui à donner du crédit à ces coureurs qui dominent, qui sont un peu froids, qui écrasent la concurrence et il subit ça. Je suis pas sûr que si Chris Froome avait gagné avant ce qui s'est passé avec Armstrong, on parlerait de la même façon. Mais là, c'est vrai qu'il est encore, on est encore dans la terre tremble encore un peu sous les roues des coureurs. avec ce qui s'est passé avant, et on a toujours peur que patatrac, ça nous tombe sur le coin du nez, et que finalement sa victoire, bon, on dise bah oui, tu vois, on savait, et on a encore rien dit une fois de plus.
Ce qu'il faut dire aussi, c'est que d'accord, il a fait un beau numéro dans une descente, mais ça m'a pas hérissé les poils sur les bras. Ce qui se passe dans le Ventoux, c'est amusant, c'est sympa,
c'est ouais, ouais. Bon,
mais ça fait pas dresser les poils sur les bras. Le seul moment sur ce tour où on a eu de l'émotion, c'est avec Bardet. Et à la sortie, vous verrez dans 3 mois qu'est-ce qui restera. Ce sera le tour de Bardet.
Oui, dans les années qui viennent, dans plusieurs années, on se souviendra.
C'est le tour de Bardet.
Numéro, ouais.
Et alors tenez-vous bien sur 25 km. C'est-à-dire que ce tour, c'est joué au niveau émotionnel sur 25 km. Et puis, Bardet arrive à la deuxième place. On s'en fiche de la première. Il vient à la deuxième place. Bardet, c'est notre vainqueur à nous, les Français. C'est le tour de Bardet, pas le tour de France.
Oui, mais Cyril, je suis d'accord avec toi, mais ça, tu parles de nous. Le cyclisme s'étend au-delà de la France. Les gens, les supporters.
Non, là, je suis pas d'accord avec vous, effectivement.
Le retentissement, il n'est pas que national, il doit être international.
Vous avez cette vision un peu cocardière.
Franco-française.
Voilà, franco-française de l'événement. Un Français qui brille et qui se rapproche du podium et qui conquiert le podium, qui part à l'assaut de la deuxième place du classement général, ça vous plaît, ça nous plaît, bien sûr, mais ça doit aussi être un tour dont il faut se rappeler, parce qu'il y a eu Peter Sagan qui a fait un show incroyable et qui est capable de gagner sur tous les terrains et de jouer avec l'adversité, avec la concurrence. Il se joue vraiment, il joue au vélo, Peter Sagan, c'est beau à voir. Il y a eu d'autres beaux moments. Les 4 victoires de Cavendish, c'est quand même quelque chose. Pour terminer sur Christopher Froome, il y a quand même, tu parlais de l'héritage de Lance Armstrong, Jérôme, il y a autre chose que l'héritage, il y a des similitudes avec Lance Armstrong qui sont
dans son équipe,
qui sont sinon confondantes, même le bonhomme, je suis désolé, sa cadence de pédalage, personne n'avait pédalé aussi vite que Christopher Froome depuis Lance Armstrong, c'est des cadences qui des cadences irréelles parfois, rappelez-vous voilà
les années précédentes, hein, cette année beaucoup moins,
mais on se souvient tous de l'attaque de Christopher Froome dans le Mont Ventoux en 2013. C'était du copier-coller de Lance Armstrong. Il y a aussi sa langue, l'anglais, qui fait que ça nous fait un vainqueur anglo-saxon. Et puis il y a cette peau diaphane qui nous pose parfois problème. Il ne bronze pas, Christopher Froome. Son visage, après 3 semaines sous le soleil, est blanc. Il est sans doute fait comme ça, mais Lance Armstrong non plus
souvent
ne bronzait pas.
Souvent les Anglais.
Lance Armstrong ne bronzait pas, messieurs. C'est comme il veut, hein. Il n'y a pas de souci. Mais c'est un fait.
Mais par contre, où je mets un bémol, on en a beaucoup parlé ce matin en venant ici à Paris avec Pierre-Yves. Imaginons que Peter Sagan ne soit pas si fantasque que ça. Imaginons Peter Sagan, les cheveux courts, coupés très courts, sans le sourire et pas faire de wheeling. On dit quoi de Peter Sagan ?
On dit qu'il a des belles cuisses, grosses cuisses.
On dit qu'il est anormalement au-dessus du lot. Je suis désolé. Aujourd'hui, le charisme joue beaucoup dans la performance et on juge beaucoup si le gars est fun et si le gars n'est pas fun, c'est pas la même chose. Mais qu'est-ce qu'on demande à Chris Froome ? C'est pas d'être fun, c'est de gagner le Tour de France et ça fait 3 années.
Alors, je vais sans doute faire réagir. Mais Peter Sagan, c'est une star. Si on demande au grand public qu'est-ce qu'il a gagné sur le Tour de France, est-ce qu'ils sont capables de vous dire que là, il est en train d'aller chercher son 5e maillot vert ?
Non, mais il se rappelle des 3 victoires d'étape de Peter Sagan.
Oui, il se rappelle du personnage parce qu'on l'a vendu aussi. Pas survendu, vendu.
Il se vend bien tout seul.
Oui. Bon, c'est un personnage qui apporte au cyclisme quelque chose, un vent nouveau. Il est quand même champion du monde. Si on demande au grand public combien de maillots verts il a gagné dans le Tour de France.
Voilà. Donc, pas au vainqueur du maillot vert.
Ce que je voulais te dire, Cyril, c'est que.
Bon, vous n'allez pas me taper dessus.
Non, mais ce que je veux te dire, c'est qu'aujourd'hui, le comportement influe du coureur cycliste, influe énormément sur le jugement qu'on va lui porter. Si Sagan, je le répète, si Sagan n'était pas fun, fantasque, avec des cheveux longs, on trouverait étrange ses performances.
Tu parles là des coureurs cyclistes, mais c'est valable pour n'importe quel personnage public, que ce soit en foot, en tennis, en politique. L'image vaut souvent bien plus que les actes. Et là, il ajoute.
Toi, en l'occurrence, Fred, c'est surtout le son. Les gens, quand ils te voient, c'est des
déçus. C'est la grosse des confusion. Mais Peter Sagan, lui, ajoute les actes à l'image. Et lui, il n'y a pas beaucoup de mots, hein, par contre, hein, chez Sagan. C'est sur la route, vélo entre les cuisses, qu'il fait le show. C'est pas seulement dans les mots.
Alors, les mots, justement, on va les entendre. Ceux de Christopher Froome, interrogé hier lors de sa conférence de presse, après avoir terminé l'étape une nouvelle fois avec le maillot jaune. Christopher Froome est-il parti pour égaler les Indurain, les Merckx, les Hino avec 5 victoires? En tous les cas, vous allez l'entendre, il a bien l'intention de revenir sur les routes du Tour de France. Chris Froome.
Ce serait un rêve pour moi de revenir sur le Tour de France les 5-6 prochaines années, d'être sur la ligne de départ et donner le meilleur de moi-même pour essayer de le gagner à nouveau. Ça fait 3 fois maintenant que je le gagne. Ce sont des émotions incroyables, une course incroyable.
Voilà, des émotions incroyables, une course incroyable. Et Chris Froome qui est là pour quelques années. Est-ce que vous le voyez remporter encore plusieurs Tours de France, Cyril?
Ben, écoutez, 31 ans, il a la possibilité, effectivement, quand on voit que l'organisation, son équipe, quand on sait également les coureurs qui sont sollicités pour rejoindre son équipe, on voit pas très bien qui peut, dans les 2 ou 3 années à venir, l'attaquer sur le tour. Mais j'ai presque envie de dire, s'il faut qu'on se l'infuse encore 2 ou 3 tours, on va perdre patience, hein, on va perdre patience, parce que des courses où au départ vous avez des coureurs qui partent sur les étapes de plat qu'on va rechercher à 2 km, que dans les étapes de montagne, parce qu'on veut pas la guerre, on laisse partir un groupe de 15, et à ce moment-là il y a le meilleur des 15 qui va aller chercher. Bon, moi je vois les réactions que l'on a des gens qu'on connaît ou sur les réseaux sociaux. Bon, ça fait plus rêver personne, quoi. Ça fait plus rêver personne. Alors vous parliez
du directeur du Tour en personne hier, a essayé de trouver des solutions pour casser cette hégémonie.
Alors là on peut y revenir. Il va falloir aussi trouver des solutions.
On va en parler dans quelques instants. Tiens, on va sur la moto. Je crois, Georges, que tu as rencontré Nicolas Portal et les gens de la formation Sky, justement sur l'avenir de Chris Froome et de la formation Sky, qui a bien l'intention de revenir encore pendant plusieurs années à ravir le maillot jaune.
Et exactement, Nicolas Portal, le directeur sportif de l'équipe Sky, qui me disait hier qu'il imaginait Christopher Froome être en mesure de se battre pour la victoire au moins sur 3, 4, voire même 5 ans pour Christopher Froome. Surtout, il faudrait qu'il ait un adversaire. Il lui disait qu'aujourd'hui, même si Nairo Quintana n'a pas été au niveau, le seul qu'il voit vraiment en mesure de contrecarrer leur Christopher Froome, c'est encore Nairo Quintana, qui s'imagine plus fort pour les années à venir.
Ouais. Nairo Quintana qui reste l'adversaire numéro 1 de Chris Froome. Cyril, tu partages ce sentiment, même si il a été très décevant sur les routes de ce Tour de France. Mais qui, mis à part, on parlera tout à l'heure de Romain Bardet, qui est en mesure de mettre à mal la domination et la suprématie?
Attendez, vous allez me faire une crise cardiaque là.
Non, mais
parce que si le Tour doit se résumer à Quintana et Froome dans les années à venir,
il va s'ennuyer ferme, c'est ça que tu veux dire?
Ah bah non, mais c'est... Attends, Quintana, je l'ai encore jamais vu sourire. Je l'ai vu un peu grimacer cette année sur le Tour. Il est un pas vide comme la pierre. Attendez, il a rien à dire. Il a pas de charisme. Enfin, il a rien,
il a
ce garçon.
Gueule, il a une gueule quand même, hein.
Ah bah oui, mais bon, parce que t'aimes ce genre de gueule. Mais moi, c'est... moi ça me fait pas.
C'est ça le débat. Le truc, c'est ok, Froome, si ça dure 3 ans, on va s'ennuyer. Mais qui derrière?
Non, mais
si c'est pas Froome, c'est Quintana. Ça fait pas rêver non plus.
Bardet-Pinot derrière Froome.
Mais enfin, oui. Il faudra qu'ils prennent un petit cran.
Alors on va écouter celui qui sera peut-être de nouveau le principal rival de Chris Froome dans les années à venir, un certain Nairo Quintana, satisfait de son tour. Ben oui, il est monté sur le podium, mais c'est vrai qu'il est tombé sur un garçon beaucoup plus fort que lui, Nairo Quintana.
Je suis tombé sur un Christopher Froome qui était très fort, trop fort. Ça fait 3 fois que je m'incline face à lui. Mais la satisfaction demeure quand même avec la performance collective de Movistar sur le Tour en juillet et le reste de la saison. On a prouvé qu'on était la meilleure équipe du monde.
La meilleure équipe du monde, nous dit Nairo Quintana.
Ah bon, c'est là.
Tu es surpris de ses propos?
Ah oui, oui,
il ne,
très surpris.
Il ne parle pas du Tour de France, hein, il parle de l'ensemble de la saison.
Mais c'est pas la meilleure équipe du monde, c'est l'ensemble de la saison. De ce Sky, la meilleure équipe du monde.
De ce que fait Valverde, de ce que peut faire Izaguirre et Rojas.
Moi, je pense que ce qui me choque, c'est que dans son discours, là, d'après Tour, il dit. Moi, Froome était plus fort que moi. Froome était Froome par-ci. Mais il est troisième entre lui et Froome. Il y a Romain Bardet. Ça veut dire que il a pas réussi à battre Romain Bardet sur le tour. Et le gars, il parle de victoire. Il est à plus de 4 minutes. Il a un mec qui a été plus fort que lui. Deux gars. Et le gars te parle que de. Il s'est planté, quoi.
Hier, il s'exprimait juste après la victoire de son coéquipier de la Movistar, Yann Izaguirre. Et il avait le sourire aux lèvres. Effectivement, il était un peu euphorique.
Il avait le sourire.
Oui.
Ça lui arrive.
Il a pas entendu là dans sa voix.
Non, j'ai pas senti, non.
Non, mais ce qui est incroyable, c'est ça, c'est que alors c'est sûr à chaud comme ça après la course, il va pas faire le bilan tout de suite, mais depuis le début, Quintana ne parle que de Froome. Que de Froome, mais il a oublié qu'il y avait d'autres adversaires que Froome, et la preuve en est, c'est qu'il est même pas sur la deuxième marche du podium.
Non, mais c'est pire que ça quand il dit que mon équipe est la plus forte. Il a fallu quand même attendre hier
pour
gagner une étape. Parce qu'il a un équipier qui est parti dans un coup de vin. C'est-à-dire que même à la pédale, il ne serait pas allé le chercher.
Voulait hier rendre hommage à ses équipiers parce qu'il a été mis dans une position de leader. Hein. Il a mis Valverde à sa solde, Valverde s'est sacrifié. Enfin, hier, Movistar a décroché quelques lauriers. Et les propos qu'il nous a tenus juste après la victoire de Yann Izaguirre, c'était aussi pour souligner la puissance collective de Movistar, le mérite de ses coéquipiers. Et quand tu dis qu'il ne parle que de Froome, sache bien que la presse ne ressort que les parties de ses interviews où il parle de sa rivalité avec Christopher Froome. D'ailleurs, on ne lui pose quasiment que des questions.
Je ne sais pas s'il a beaucoup parlé de Romain Bardet. Que des questions.
J'ai pas entendu une seule fois Bardet dans sa bouche.
Mais il sait qu'il est dans la course, Bardet. Quand même.
Non, mais.
Oui.
Mais
Georges le dit que oui, Georges. Georges qui est.
Oui, bien sûr. Dès le départ du Tour de France, Christopher Froome, Nairo Quintana citait Christopher Froome comme ses rivaux. Et d'ailleurs, derrière Christopher Froome, à chaque fois, il disait je dois faire attention à Bardet, Hippinot, Romain Bardet. Et Thibaut Pinot, il a souvent parlé des autres adversaires. Voilà, même pendant ce Tour de France, il a parlé de Bauke et Mollema. Il n'y a pas une fixation sur Christopher Froome. C'est vrai que c'est nous qui lui imposons, on va dire, peut-être cette fixation. On est un peu responsable là-dessus, c'est pas faux.
Il y a aussi quelque chose dans ce discours-là. Hein, c'est que s'il réagit comme ça très vite après l'arrivée en disant mon équipe, je les remercie, on est les meilleurs du monde, c'est qui sait qui s'est loupé. Et s'il veut remobiliser tout le monde pour réessayer l'an prochain, il va devoir faire l'unanimité, et je suis pas certain que des coureurs qui se sont sacrifiés pour lui cette année ont envie de le faire dans les prochaines années.
Allez, on va continuer nos débats dans quelques instants. Georges, on va quand même te donner la parole concernant l'étape qui continue, qui ne s'est déroulée à vitesse tranquillou, 82 km de l'arrivée, je crois. Hein.
L'étape, il y a une étape, oui, 29 km parcourus pour l'instant pour les coureurs qui sont dans la localité de Sannois. On est toujours dans le Val d'Oise, il y a toujours beaucoup, un public important sur le long de la route pour encourager les 175 derniers coureurs du Tour de France qui pour l'instant sont tranquillement. On voit tous les coureurs de l'équipe Tinkoff qui se sont positionnés à l'avant avec Peter Sagan, notamment les BMC également, qui demandent presque aux motophotographes de venir les prendre en photo tous ensemble à l'avant du peloton. Donc vous voyez bien, c'est un défilé pour l'instant qui mène les coureurs jusqu'aux Champs-Élysées.
Très bien, 82 km de l'arrivée. Nous sommes donc à une trentaine de kilomètres de l'entrée dans Paris où la course débutera réellement. On l'espère en tous les cas. À tout de suite.
RMC. Précédemment dans l'intégral Tour de France.
Christopher Froome est en train de courir, incroyable image, Fred.
Christopher Froome sans vélo, il termine l'ascension du Ventoux. Qu'est-ce que c'est que cette image? André Greipel va buter sur Alexander Kristoff qui fête son anniversaire aujourd'hui. Brian Cocquart sur la gauche de la route est en train de déborder. Alexander Kristoff, Brian Cocquart qui résiste et qui va remporter de Brian Cocquart. Tout va se jouer à la photo finish. 100 mètres.
Ah, c'est dur, ils sont durs, ces 100 derniers mètres.
Il s'arrache lui.
Allez.
Et son physique hyper longiligne, il se dépouille, les pentes sont à plus de 10%, ne se retourne pas.
Romain lève la main, il
va lâcher quelques secondes à lever les deux bras vers le ciel. Il s'applaudit lui-même, il embrasse la foule, il lève les deux bras. Gros succès de Romain Bardet ici dans la station du BTS. Que s'est-il passé pour Christopher Froome, maillot jaune sur le dos, qui fait un footing. Il fait un footing dans les pentes du Mont Ventoux. Il n'a plus de vélo. Peter Sagan qui va peut-être nous gratifier. On va rester quelques secondes avec lui. Il est à 50 mètres de la ligne d'arrivée. Bah, tu l'as sous les yeux, Cyril. Est-ce qu'il termine en roue arrière? Dis-nous tout.
Il lui reste 15 mètres.
Pas de wheeling.
10 mètres. C'est il l'a fait.
RMC Intégral Tour. Christophe Cessieux.
Voilà, pour pourri des grands moments que nous avons vécu sur les routes de ce Tour de France. Cyril nous disait qu'il ne s'était régalé que pendant 25 km. Là, on a quand même eu l'occasion de s'extasier plus d'une fois, Cyril. Tu es un peu mauvaise langue quand même.
Écoutez, ça me fait du bien d'être mauvaise langue. Voilà.
Bon, on reviendra évidemment
sur... Non, tout est relatif, bien sûr. Mais bon, il y a des Tours de France où on a quand même pris beaucoup plus notre pied que cette année. Là, on a, ce que je dis, c'est qu'on a vraiment pris notre pied pendant 25 km. Voilà.
Et grâce à qui? Grâce à Romain Bardet qui nous a enchanté donc dans l'étape qui s'achevait au PT sur les hauteurs de Saint-Gervais. C'était avant-hier. Grâce à cette victoire, eh bien, il monte sur le podium des Champs-Élysées pour la première fois de sa carrière. Avant d'aborder notre petit débat avec nos confrères du Parisien dans un instant, un petit mot sur la course car il y a une côte. Et oui, la dernière côte de ce Tour de France, Georges Quirino, quatrième catégorie. Ouais. C'est pas le Ventoux, hein.
Ah non, mais c'est pas une côtelette hein, non plus, cette dernière côte du Tour de France, la côte de l'Ermitage. On est au kilomètre 32 pour le peloton. C'est un beau raidard hein, pour qui s'est levé pour les coureurs du Tour de France, pour le peloton. Et c'est Roman Kreuzinger de l'équipe Tinkoff qui est passé en tête, le coéquipier du maillot à pois, Rafał Majka, donc le meilleur grimpeur Tour de France, qui va l'emmener dans quelques instants. On bascule dans la descente, Christophe, vers Argenteuil, et on voit là-bas tout au bout les tour du quartier financier de La Défense. On est en train de se rapprocher de la capitale.
Et oui, le peloton qui entrera dans la capitale dans 20 km environ.
La côte de l'Ermitage à cheval sur les communes d'Argenteuil et Sannois. Messieurs, ça ne vous rappelle rien, Jérôme Pinault.
Trophée des grimpeurs.
Cyril Guimard, bien sûr, c'est là que se passait la polymultipliée, le trophée des grimpeurs, évidemment, organisé jadis.
Cher Josette Lelio.
Josette Lelio, effectivement. C'était des courses spectaculaires, ça, hein, quand même. Jérôme, t'as couru là-bas. Hein.
J'ai fait deux podiums au trophée des grimpeurs. Deux fois troisième, me semble-t-il.
Voilà, c'était pas n'importe quoi la côte de l'Ermitage franchir en tête.
Donc,
Roman Kreuziger pris en chasse, on s'amuse bien à l'avant du peloton, pris en chasse par Nairo Quintana, les grimpeurs à la fête.
Vous voyez qu'il attaque Quintana.
Il s'amuse bien, ils sont dans la descente vers Argenteuil, ça y est, ça va commencer à sentir la course. Il reste 79 km à parcourir. Bientôt, on va rentrer dans le département des Hauts-de-Seine, les coureurs qui étaient dans le Val-d'Oise jusqu'à maintenant. 78 km à parcourir. On attend que ça s'anime pour se focusser, comme disent les coureurs de Sky, se focus sur la course.
Et en attendant justement que la course ne débute, notre petit débat quotidien avec notre confrère du Parisien, David Opozinski, qui nous a rejoint. Salut David.
Salut à tous.
Alors je le disais, on a vibré il y a quelques jours avec cette incroyable étape et cette incroyable victoire de Romain Bardet, qui va donc achever son Tour de France sur la deuxième marche du podium. Ça fait longtemps qu'on espérait qu'un Français puisse atteindre ce niveau, même si son coéquipier Jean-Christophe Perrault l'avait fait il y a deux ans. Mais enfin, Jean-Christophe Perrault était plutôt en fin de carrière, alors que Romain Bardet, lui, est encore à tout l'avenir devant lui. On rappelle qu'il n'a pas encore 26 ans. Et la question qu'on se pose, c'est de savoir si un jour ce garçon peut franchir la dernière marche, c'est souvent la plus difficile, et remporter ce Tour de France. Alors, est-ce que vous y croyez, messieurs? On va commencer avec toi, David, et essayer d'apporter des raisons objectives d'y croire. David, est-ce que tu penses qu'un jour, ici, sur les Champs-Élysées, on verra Romain Bardet en jaune remporter le Tour de France?
Alors c'est évidemment possible hein, parce que dans l'absolu il ne lui manque rien. Simplement, vous parliez de franchir cette première marche, le problème c'est qu'il y a quelqu'un dessus actuellement, et tant qu'il sera là, on voit mal comment Romain Bardet pourra détrôner Chris Froome, parce que finalement, même s'il est très régulier, Romain Bardet, il l'a montré sur ce tour, et Chris Froome l'est encore plus et finalement un peu plus performant dans tous les secteurs. Donc il faudra qu'il y ait des aléas de course qui surviennent pour que en l'état les choses puissent se passer encore plus favorablement pour lui. Mais ce qui est sûr, c'est que il a l'ambition d'essayer. Alors si lui pour l'instant ne souhaite pas trop y penser, il profite de sa deuxième place. En tout cas, Vincent Lavenu disait ce matin, son manager de l'équipe AG2R, que rien n'est impossible et qu'il ne faut rien s'interdire.
Jérôme, est-ce que tu y crois? Est-ce que c'est possible? Et dans combien de temps?
Bien sûr, je crois que je pars du principe que quand on a le talent de Romain et qu'on arrive deuxième à Paris, on a l'ambition d'un jour remporter le Tour de France. Son équipe travaille très bien. On met les moyens du côté de l'équipe AG2R, la mondiale, pour continuer à progresser. Romain a progressé dans tous les domaines. Comme le dit David, il va falloir des circonstances. Je pense que l'organisateur du Tour de France aussi, en tenant à bout de doigts un possible vainqueur français du Tour de France, va faire en sorte de ne pas mettre par exemple des contre-la-montre de 50 km tout plat, où là ce serait vraiment impossible pour Romain de remporter le Tour de France. On doit s'adapter aux qualités de nos coureurs. Chaque pays le fait. La Vuelta adapte son parcours pour un Espagnol, l'Italie encore plus pour un Italien. Donc pourquoi ne pas le faire nous, même si la dimension internationale du Tour de France est peut-être supérieure à celle du Tour d'Espagne, du Tour d'Italie. En tout cas, côté AG2R mondial, côté Romain Bardet, on fait tout en sorte pour arriver un jour à battre Chris Froome, mais à gagner le Tour de France simplement. On le rappelle, il y a 2 ans, Nibali a gagné parce que Chris Froome est tombé. Il peut arriver plein de choses. Donc oui, on peut y croire. Oui, un jour, peut-être, Romain Bardet gagnera le Tour de France.
Il faut que toutes les circonstances soient réunies. Il faut aussi que l'organisateur du Tour de France mitonne un Tour de France, justement, pour Romain Bardet. C'est-à-dire, il ne faudrait pas de trop long contre-la-montre, Cyril, mais peut-être des contre-la-montre en côte, comme cela avait été le cas l'autre jour vers Megève.
Oui, mais regardez, l'an dernier, c'est exactement ce qu'il y a eu. C'est-à-dire que ce qu'on souhaite aujourd'hui pour Bardet ou Thibaut Pinot, si on peut encore le considérer comme un vainqueur possible du Tour, l'an dernier, ils ont eu le Tour. L'an dernier, ils ont eu le Tour parfait. Il n'y avait que 13 km contre la montre. Donc 13 km contre la montre et ils ont fini très loin tous les deux. Cette année, Bardet est dans le coup, mais je ne crois pas qu'on puisse faire un Tour de France pour un coureur.
Bon, on continuera d'en parler tout à l'heure, juste après les infos de 18h, mais vous savez, il y a plein de rendez-vous en cette fin d'après-midi, et notamment le récap des courses hippiques du jour avec Sébastien Darras. Salut Seb.
Salut Christophe, bonjour à tous. Quartier disputé cet après-midi sur l'hippodrome de Maison Lafitte. On avait deux noms partants, l'As et le 12, et la victoire de la dernière minute d'RMC, le 3, Valek, qui s'est imposé aux dépens du 16, Wikita, la troisième place pour le 6, Sans Secret, devant le 11, Cosima, et le 4, V2, 3, 16, 6, 11 et 4, un quintet qui rapporte plus de 24 000 euros pour l'ordre. Demain, on va galoper également, mais du côté de Vichy, c'est la grande semaine sur les bords de l'Allier. Quintet ayant réuni 18 partants. Évidemment, l'incontournable de cette épreuve, c'est Iron Spirit, le numéro 12, qui peut d'ailleurs servir de base pour établir ses jeux. Puis un petit outsider, le 4, Lotus Garden, qu'on va racheter dans cette épreuve, qui pourrait faire afficher une belle cote. D'autres infos pour ce quintet, et puis bien évidemment, les autres compétitions du jour, comme d'habitude, sur rmcsport.fr.
PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Voilà, on se retrouve dans quelques instants, juste après les infos de 18h, pour continuer de vivre cette dernière étape du Tour de France. Nous sommes à 75 km de l'arrivée, donc à 15 km de l'entrée dans Paris, où la course va enfin débuter. À tout à l'heure.